Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Attention, certains propos peuvent heurter les oreilles sensibles.
Madame Pauline était une matrone africaine, une mère de famille également. Jamais, je vous l'assure, je n'ai vu quelqu'un d'aussi haineux. Entouré de ses tueurs, elle les excitait, les appelait à travailler, travailler, travailler encore. Cela voulait dire assassiner, assassiner, assassiner.
C'est avec ces mots que le journaliste et grand reporter Patrick de Saint-Exupéry nous raconte Pauline Yaramasuhoko dans son ouvrage intitulé « La traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique », publié en 2021.
Les tueurs issus de la garde présidentielle ou des bataillons parachutistes étaient fourbus. Qu'importe, Madame Pauline ordonnait « Il faut les tuer tous, il faut éliminer ces cancres-là ». Et elle s'interrompait, appelait un de ses assistants pour lui demander d'apporter des preuves. Des preuves de quoi ? Du complot, répondait-elle sur le ton de l'évidence. Quel complot ? Mais celui des Tutsis, bien sûr. Et l'assistant, s'emparant d'une pile de cahiers tendue par un soldat, disait « Regardez, les voici les preuves. » Il n'y avait que des copies d'écoliers. « Lisez, vous comprendrez, insistait-il. » On lisait, et on ne voyait que de simples devoirs d'enfants d'une dizaine d'années. Certains cahiers étaient tachés, d'autres un peu bâclés. Parfois, il y avait des graffitis, rien de plus. « Vous voyez, reprenait Madame Pauline, c'est le complot. Tous, même les enfants. »
Pauline Yaramasuhoko, Génocide rwandais au féminin, premier épisode, La mécanique du meurtre. Alain Lefkovitch, Marie-Laure Ciboulet.
Lorsque je la rencontre en 94, c'était au mois de mai 94, donc un mois et demi, deux mois après le début du génocide, je tombe sur elle par hasard, je découvre cette femme que j'avais jamais rencontrée auparavant. Et ce qui s'était passé, c'est que j'arrivais de Kigali, j'étais remonté dans une ville qui s'appelle Gitarama, qui n'est pas très éloignée de Kigali, où s'était installé à l'époque le gouvernement intérimaire, c'est-à-dire le gouvernement qui va organiser et réaliser le génocide des Tutsis. Tout au long de la route, déjà c'était une route dévastée, quoi. Il y avait des traces de massacres un peu partout. C'était très difficile. Et en arrivant à Gitarama, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus comment, mais en tout cas, je tombe sur elle. Elle était un peu à l'écart du centre-ville, installée aux abords d'un stade. Il y avait des groupes militaires autour d'elle, la garde présidentielle, rwandaise, des éléments parachutistes. Puis quand j'arrive, je me présente et tout de suite, je me souviens très bien, elle vient vers moi et elle commence à discuter, quoi. Une femme très énervée, très excitée, elle débordait d'une rage extrême. Derrière, pas très loin, il y avait le camion de radio-émission de ce qu'on appelait la radio des tueurs, Radio Mille Collines. Et Madame Pauline se dirige vers moi et puis on a cette discussion atterrante, surréaliste, pathétique. Et cette image des cahiers d'écoliers, ce soldat de la garde présidentielle arrivant, parce qu'elle lui avait ordonné, je me souviens, elle avait fait clac, soldat vient, en tapant dans ses mains, puis le soldat était venu, et puis il lui avait dit, va me chercher les preuves. Puis le gars était revenu avec ce petit tas de cahiers dans les mains, puis elle s'en était emparée, puis l'ouvrant, et ce propos, ce complot imaginaire qu'elle mettait en scène. Mais c'est évident que ça ne souffre absolument pas la discussion qu'elle a pu faire tout cela, et sans doute encore plus, encore plus.
Du 7 avril au 17 juillet 1994, près d'un million de Rwandais vont trouver la mort, essentiellement des Tutsis, assassinés par les extrémistes Hutus. Un véritable génocide, au cours duquel Pauline Yaramasuhoko, alors ministre de la Famille et du Progrès des Femmes, va jouer un rôle clé.
De l'autre côté de la rivière, nous assistons à de premières scènes d'horreur dans la préfecture de Butare, sur les collines abruptes de la commune Nyakizu. Nous distinguons des maisons en flammes, des paysans qui courent dans tous les sens, les femmes et les enfants pourchassés, hurlant, certains se jetant dans la Kanyarou, les vaches apeurées dévalant les pentes. Je vois des gens habillés bizarrement, armés de machettes, d'autres avec de gros bâtons, des lances, et bien sûr, ceux qui fuient. C'est réel. Le professeur avait raison. Nyarugurou est à feu et à sang.
Dans l'enceinte d'une mission religieuse.
Je suis originaire d'Obutare, là où j'ai vécu jusqu'en 1994, donc.
Adélaïde Moukantabana, autrice de Innommable, un récit du génocide Tutsi, publié en 2016.
J'ai été évacuée dans mon village, pas loin d'Obutare, par un médecin de notre village, avec une toute petite partie de ma famille, et l'autre a été assassinée.
Je profite de la chaleur affectueuse de tous. J'ignore que cette nuit sera la dernière avec ces êtres si chers qui vont être tous massacrés. Parmi tous ceux qui étaient là ce soir, il ne restera que Bernadette et moi. En cette date, nous avons tous le sentiment que notre mort est programmée. Un présage de malheur plane pas loin de nos têtes. Le lendemain, on s'est dit au revoir sans beaucoup d'espoir.
Depuis l'attentat, le 6 avril, on était dans les maisons, on ne devait pas sortir. C'était les couvre-feux nuit et jour, donc on ne pouvait même pas aller discuter avec le voisin parce qu'on ne sortait pas. Écouter la radio, on écoutait donc la radio Rwanda, c'était la radio de l'État.
Le président compare les Tutsis et les traîtres Hutus à une saleté. C'est connu, les Tutsis ne sont plus des humains. Ce sont des cancrelats qu'on écrase avec le pied.
Si je devais écouter, il y avait la radio du FPR, la radio Mravoura, il fallait se cacher, il ne fallait pas que le voisin entende le bruit de la radio Mravoura.
Le président intérimaire vient de donner l'ordre de tuer les Tutsis.
Donc du 6 au 17, on était terrés dans nos maisons. Limite, on n'avait plus de quoi manger. Quand on a été traité de cafards, quand on a été pourchassé, quand on a perdu les êtres chers, retrouver la parole, c'est quelque chose de très très compliqué.
J'avais mon fils sur le dos.
Parce qu'il faut chercher les mots.
J'ai eu mon bébé sur mon dos pendant 2 jours et 2 nuits. Il me semble que pendant tout ce temps, je l'ai allaité seulement 1 ou 2 fois. Il ne pleurait plus. Je courais avec lui sur mon dos. Je courais telle une possédée. Mon bébé, on aurait dit qu'il était accroché et qu'au lieu de me peser, il me donnait de l'énergie. Je voulais absolument le sauver. Ils ont coupé tout le monde à Nyangé. Je me suis mise à courir. J'ai couru vers Mugambwa. Je n'ai pas pu franchir l'Akabogobogo. Je suis revenue à Nyangé. Ils avaient fini de tuer. Dans chaque buisson, dans chaque trou, des corps partout. Alors je me suis cachée dans un champ de sorgho. J'ai attendu la nuit. Puis je suis partie vers la Kanyaru. Quelqu'un a hurlé derrière moi. « Voici un autre petit cafard !» En même temps, il m'a asséné un coup de machette, un seul coup qui m'a projeté dans la boue au milieu des papyrus. Ce fut le dernier bruit dans mes oreilles. Après, plus rien. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. J'ai repris connaissance, à moitié enfoncée dans la boue, devenue rouge. La tête de mon enfant était sous mes pieds, et le reste de son corps accroché à mon dos. J'ai défait le pagne quand je l'ai sorti du creux de mon dos. J'ai senti une douleur entre les omoplates, comme si je venais d'extraire un bout de mes muscles. Tétanisée, j'ai essayé de recoller les 2 parties du corps de mon bébé. J'ai enveloppé son petit corps dans le pagne.
Un jour, l'aîné s'est demandé pourquoi il avait tout effacé.
Et je l'ai enfoui dans les papyrus.
Les souvenirs d'avant.
J'étais froide comme un glaçon.
Le frère et le père dont on n'a jamais retrouvé les restes. La mère telle qu'elle avait été. Il pense que c'est à cause des coups sur la tête. Des cicatrices qui zèbrent ses tempes. Il ne s'avoue pas que c'est par solidarité avec Petite qui est née après. Aurait-il tant aimé sa petite sœur s'il avait accepté de voir en elle le fruit de la catastrophe? Certaines nuits, des bruits très distincts lui reviennent. La voix de sa mère chutant lentement et la cacophonie tenace de l'assaut des hommes qui l'avaient étouffée. Ce sont des nuits infâmes dont l'aîné sort courbaturé, le regard brûlant. Il a fini par réaliser que sa petite sœur venait de ce moment chiffonné dans les recoins de sa mémoire. Le son inavouable d'une horde, balayant un corps atone, autrefois doux et aimant. Le ventre de sa mère.
Extrait de Ejo, ouvrage de Beata Umubiei-Meres.
Pendant le génocide et depuis le début, le viol, ça a été l'arme d'exterminer les Tutsis parce que les équipes de violeurs, c'était des jeunes hommes infectés du sida. Ils étaient vraiment recrutés parce qu'ils étaient infectés du sida. C'était une façon de l'exterminer à petit feu. Il y avait le viol, il y avait le sida et parfois, pendant ces viols, ils utilisaient des outils. On a bien vu que à des moments, ils enfonçaient des morceaux de verre dans les vagins des femmes.
D'abord, tous les vrais partis, le MDR PAWA, le MRND, le CDR, bref, tous les partis qui œuvrent véritablement pour les intérêts du peuple Hutu doivent proclamer leur unité.
Extrait de Radio Mille Collines, février 1994.
S'ils sont unis, nos militants le seront également, et là je vous assure, rien ne pourra nous résister. Comme ça au moins, on verra qui veut l'intérêt de notre peuple et qui veut collaborer avec les cancrela.
Le génocide, pour le comprendre, il faut revenir au temps long, le temps de la discrimination contre les Tutsis, qu'il faut comprendre à partir de l'histoire coloniale du Rwanda, avec les Belges qui arrivent et qui racialisent en fait des classes sociales en créant des ethnies Tutsis et Hutu.
Juliette Bourg, historienne.
Racialisation de ces catégories qui sont reprises ensuite par les Rwandais au moment de la révolution de 59 puis de l'indépendance. Avec un pouvoir qui justifie son existence par le fait d'être le représentant du peuple majoritaire Hutu. Et donc, dès 59, puis les années 60, 70, il y a des massacres déjà récurrents contre les Tutsis et des discriminations qui sont mises en place à la tête de l'État, par exemple, dans l'accès à l'éducation, l'accès aux emplois dans l'administration.
Ces identités ont été construites pendant la période de colonisation.
Patrick de Saint-Exupéry.
Entre autres par la Belgique, qui les a scellés dans le marbre au travers de pièces d'identité, d'affiliation autoritaire. Chacun était obligé de s'affilier à Hutu ou Tutsi. Il n'y avait pas le choix. C'était inscrit sur les documents d'identité. Les Belges, à l'époque, vont faire d'énormes études scientifiques pour justifier ce choix en disant les Hutus ont un nez plus grand que les autres, les Tutsis sont plus grands. Enfin, c'est des considérations absolument stupéfiantes, incohérentes.
À partir de 1990, quand le Front patriotique rwandais, qui est composé majoritairement d'exilés Tutsis, cherche à rentrer à nouveau au Rwanda et à mettre fin à ces situations de discrimination contre les Tutsis, là, la société rwandaise et le pouvoir en place, le pouvoir du président Habyarimana, fait participer toute la population à l'effort de guerre et intensifie les discriminations et les violences contre les Tutsis.
On va avoir, par exemple, dès le début des années 90, ce qu'on appelle les 10 commandements du Hutu, qui est publié dans un journal extrémiste.
La révolution sociale,
de 1959,
le référendum de 1961,
et l'idéologie Hutu doivent être enseignées à tous les niveaux.
Tout Hutu doit diffuser largement la présente idéologie.
Lorsqu'on le lit, c'est juste terrible, quoi. Il y a une phrase, entre autres, où il faut se méfier des Hutus qui se sont mariés à des Tutsis.
Filles de Hutu, soyez vigilantes et ramenez vos maris, vos frères et vos fils à la raison.
Les Hutus doivent cesser d'avoir pitié des Tutsis.
Tout Hutu doit savoir que tout Tutsi est malhonnête dans les affaires. Il ne vise que la suprématie de son ethnie.
Les postes stratégiques, tant politiques, administratifs, économiques, militaires et de sécurité doivent être confiés aux Hutus.
À la guerre, il faut ajouter le contexte du multipartisme. À partir de juillet 91, il y a une démocratisation de la société rwandaise avec des nouveaux partis. La liberté de la presse, la liberté politique fait qu'il y a un discours de haine qui se propage à partir de 1991. Et ces partis politiques ont également des jeunesses qui de plus en plus deviennent des jeunesses armées et des milices, avec par exemple la création des milices Interahamwe, des civils qui sont entraînés et armés par le gouvernement pour ce qu'ils ont appelé l'autodéfense civile, et la chasse aux complices du FPR. Et en 1994, on a donc toute une partie de la population qui est armée, entraînée et prête à chasser les Tutsis. Ces Tutsis, également, à partir de 1990, ont été mis sur des listes, recensés très précisément. Et donc, en avril 1994, c'est très facile pour ces miliciens de les trouver et de les tuer.
En Afrique, deux chefs d'État sont morts en même temps. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. L'appareil
et quand le génocide commence le 7 avril 1994, cela fait suite à l'attentat contre le président Habyarimana, pour lequel tout de suite le FPR est accusé.
Cela faisait 20 ans que le général-major Habyarimana était à la tête du Rwanda à la suite d'un coup d'État.
France 2, 1994.
Un homme de poigne qui supportait mal de voir son pouvoir remis en cause par une opposition de plus en plus revendicative.
Et donc il s'agit pour les Hutus de venger leur président à un moment où ça fait déjà 4 ans que tous les Tutsis qui vivent à l'intérieur du Rwanda ont été assimilés à des ennemis de la nation Hutu et des complices du FPR.
Ça a été un génocide très rapide, tout simplement parce que on y a mêlé la population.
Alain Gauthier, traqueur de génocidaires Hutu.
La population Hutu représente quand même 80% de la population. Donc ça faisait une masse importante qui était susceptible de participer. Je ne dis pas que tous les Hutus ont participé au génocide, bien sûr que non. Mais le fait de dire aux gens, prenez la machette, prenez les lances, prenez tous les outils que vous avez chez vous et allez débusquer les Tutsis que vous connaissez, en montre l'efficacité et la rapidité. Et la préfecture de Boutaré a été une des préfectures les plus touchées par le nombre de victimes par ce génocide.
Boutaré, c'est une ville universitaire. Et Pauline va être renvoyée par le gouvernement intérimaire parce que le préfet de Boutaré est inefficace. C'est un Tutsi et il ne se passe rien à Boutaré alors que le pays est plongé dans l'extermination. Et donc Pauline est envoyée par le gouvernement intérimaire pour mettre fin à cette situation insupportable. Et elle va y mettre fin. Son fils va prendre la tête des milices Interahamwe. Et ces milices vont lancer la machine de l'extermination. Et Pauline, avec son fils, va être à la manœuvre.
Je voudrais demander à Madame Pauline Nyarama Souko de s'avancer.
Archives du procès de Pauline Nyarama Souko.
Nous prions de bien vouloir indiquer au tribunal
10 août 1997
vos noms, prénoms, date et lieu de naissance et vos occupations avant votre arrestation.
Je dois me lever.
Non, asseyez-vous. Asseyez-vous.
Ok. Et je m'appelle Pauline Nyarama Souko. Je suis née en 1946. Mes fonctions, j'étais ministre.
Elle a fait ses études dans la première école secondaire pour filles du Rwanda, l'école de Karubanda, qui était une école très prestigieuse où elle fréquentait les filles de l'élite du pouvoir de Kayibanda, du président qui était pendant sa jeunesse.
Juliette Bourg, historienne.
Puis elle a fait une carrière plutôt classique pour une femme, c'est-à-dire qu'elle s'est dirigée vers la carrière de monitrice sociale. Elle s'est très vite engagée pour les droits des femmes rwandaises. Elle a écrit, par exemple, un livret d'alphabétisation à destination des femmes rwandaises, où elle organisait des réunions spécifiquement pour les femmes, pour qu'elles apprennent à prendre la parole en public, à dire leurs revendications, ce qui était à l'époque très mal perçu dans la société rwandaise, qu'une femme s'exprime publiquement. Elle les a poussées à faire ça. Donc, elle était également à côté, très engagée dans le parti présidentiel Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement du président Habyarimana. Et elle a grimpé parallèlement les échelons au MRND. Elle finit par devenir fonctionnaire pour un ministère avant de reprendre ses études en droit, puisqu'elle savait que c'était la condition pour être ministre, d'avoir une formation universitaire, et une fois qu'elle terminera ce cursus de droit à l'université de Boutaré, elle deviendra ministre en 1992, ministre de la promotion féminine et de la famille.
À l'origine, elle est d'une famille Hutu assez pauvre, de la région de Guitarama, c'est une famille de paysans. Et elle va rencontrer sur les bancs de l'école une femme qui s'appelle Agathe Kanziga, qui va devenir plus tard la femme du président rwandais Habyarimana.
Patrick de Saint-Exupéry, journaliste, grand reporter, écrivain et spécialiste du Rwanda.
Et cette femme, Agathe Kanziga, c'est elle qui dirige l'Akazu. L'Akazu, c'est, au Rwanda, c'est la petite maison, c'est cette petite maison, c'est ce noyau dur qui va présider à la destinée du génocide, qui va l'organiser, le mettre en place et construire tout le génocide. Et donc cette relation d'enfance entre les deux femmes, Agathe et Pauline, va faciliter l'accès de Pauline à des responsabilités jusqu'à devenir ministre de la femme et du bien-être pendant le génocide. Lorsqu'on connaît les deux femmes, et j'ai aussi vu Madame Kanziga, Agathe, elles ont la même violence à l'intérieur d'elles-mêmes. Et Pauline va très rapidement s'emparer de la pelle et pousser la population à tuer. Le complot, ce mystérieux complot qui est une paranoïa totale. Mais une paranoïa qu'ils ont construite pour arriver à leur fin politique.
Pauline, dès le départ, et d'ailleurs c'est intéressant parce que sa famille le dit, par exemple, quand elle est toute petite, elle a une ambition. Et quand elle est étudiante, elle en parle avec ses copines, etc. Elle a une ambition politique.
Céline Bardet, juriste internationale, fondatrice et directrice de l'ONG We Are Not Weapons of War.
Je pense que ça a un rôle aussi ultra important dans ce qu'elle va faire après. Et quand il y a ce choc de l'assassinat du président qui va déclencher le génocide, d'une part, elle voit une opportunité et d'autre part, elle s'installe en fait dans ce mouvement qu'on a appelé Hutu Power. Alors que la question, elle se pose, en tout cas, moi, je me la pose la concernant. C'est-à-dire que je suis pas totalement persuadée qu'elle est idéologiquement totalement dans ce mouvement Hutu Power, mais elle va rentrer dedans de manière extrêmement profonde parce qu'elle voit que c'est un moyen aussi d'accéder à de plus en plus de pouvoir. Et à un moment, il y a un shift, c'est-à-dire qu'elle va, parce que selon elle, ça ne va pas assez vite, ou elle va devenir opérationnelle, ce qui est assez étonnant parce qu'elle est quand même ministre à la base et que l'idéologie, elle n'est pas forcément opérationnalisée par les mêmes personnes. Parce qu'il y a un changement aussi physique. C'est-à-dire qu'elle passe de son poste de ministre, certainement avec, je ne sais pas, sa petite jupe et sa petite chemise, à une tenue militaire. Par exemple, pourquoi elle fait ça? Il y a des scènes qui sont reprises par les victimes pendant le procès, où ils racontent, par exemple, qu'il y a cette femme qui est enceinte, qui est prête à être tuée, en fait, et elle supplie, elle ne veut pas mourir, etc. Et Pauline est là, et elle arrive avec sa tenue militaire et sa calache, et elle dit aux hommes, « Tuez-la tout de suite ».
Elle est en charge de la sensibilisation, entre guillemets, dans sa préfecture d'origine. La sensibilisation, c'est la mobilisation des populations hutus à participer au massacre. Elle est décrite par de nombreux témoins comme circulant dans les rues avec un mégaphone à la main pour appeler la population à tuer. Ensuite, même quand les Tutsis se réfugient à des endroits stratégiques dans la préfecture, par exemple comme au bureau du secteur de Butare, et au bureau de la préfecture, elle se rend sur place avec des miliciens. Elle est conduite par ces miliciens dans une camionnette. Elle se rend sur place de jour et de nuit. Et elle sélectionne les hommes à tuer, les femmes à violer, en faisant des discours là aussi de sensibilisation, en comparant les Tutsis à de la saleté dont il faut se débarrasser, en disant qu'il faut violer ces femmes Tutsis qui jusque-là ont volé les maris des femmes Hutus, etc. Et elle est à toutes les échelles de la mise en œuvre du génocide. C'est pour ça que c'est un cas vraiment intéressant, autant à la tête de l'État qu'au niveau de l'exécution, puisqu'elle dirige véritablement les miliciens sur le terrain, dont son fils.
Son fils a violé des femmes en sa présence, c'est ce que racontent des témoins. Là aussi, ça met en jeu des choses presque sacrées. Comment un fils peut violer une femme en présence de sa mère? Alors on a envie de se dire non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible, de la même manière que au Rwanda, on enfonçait des pieux dans les vagins des femmes parce que on tuait une bête. Je sais que lorsque on entend ça, on se dit mais c'est de la folie. Mais non, c'est pas de la folie. Il y a un très beau mot d'un écrivain anglais qui s'appelle Chester Himes et qui dit ceci: la folie, ce n'est pas perdre la raison, c'est tout perdre sauf la raison. Et je crois que on est exactement dans cette vérité-là. Un génocide, c'est quelque chose de raisonnable, lorsqu'on accepte quelques axiomes. Et ces axiomes sont à la base très simples. L'autre veut me tuer, l'autre est un animal. Si je ne veux pas être tué par cet animal, je tue l'animal et je n'aurai plus de problème.
Je ne sais pas quoi penser de ça. En tant que mère, je ne peux pas me mettre à la place de cette femme.
Adélaïde Mukantabana.
Je pense que ça devrait être un sujet d'étude. Je me demande pourquoi d'ailleurs ils ne mettent pas les spécialistes du mental devant ces personnes. C'est un sujet d'étude. Parce que ça dépasse l'entendement. Une mère protège. Et elle a incité à commettre l'innommable.
On ne peut exister qu'au travers des représentations qu'on a du monde. C'est comme ça, quoi. On est obligé. Et on est obligé, dans nos représentations, d'avoir certaines formes de simplification pour pas trop nous embrouiller, pour que le monde nous reste accessible. Et donc, le père de famille, la mère de famille, ben, doit rester quand même une image assez propre. Enfin, on en a besoin. Si on venait à se dire un jour, un père de famille ou une mère de famille peut être un des pires criminels que l'on ait jamais imaginé ou même jamais osé imaginer, c'est totalement déstabilisant.
Moi, je crois qu'il y a d'une part une ambition et d'autre part une galvanisation aussi. Et ça, c'est ce qui est aussi typique, j'allais dire, au crime de masse ou à la violence de masse. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute une effervescence.
La haine, c'est, lorsqu'elle est là, c'est un feu dévorant. Vous avez dressé un bûcher. C'est beau, un bûcher. C'est les flammes. C'est puissant, c'est fort. Ben, vous avez envie de l'attiser. Vous êtes hypnotisé par le bûcher. Vous avez lancé une mécanique, vous pensiez la maîtriser, puis ben même vous, si vous faites embarquer, vous êtes toujours à la manœuvre. Mais vous la trouvez belle, cette mécanique. C'est beau. Il y a un sentiment de puissance là-dedans. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est d'abord la puissance qui explique tout ça. Après, tout le reste, je sais pas, quoi. Je sais pas.
C'était Pauline Yaramasouko, Génocide rwandais au féminin, La mécanique du meurtre. Avec Patrick de Saint-Exupéry, Juliette Bourg, Céline Bardet, Alain Gauthier et Adélaïde Mukantabana. Avec les voix de Sabine Pacora, Violette Fossa. Merci à celle qui m'a inspiré cette série, Merima Hussein-Bazic, rescapée de la guerre en Bosnie, spécialiste des crises et des conflits à Sciences Po et ancienne du TPY pour ses traductions, ses recherches et ses contacts. Merci également à Indiana Burkel pour son aide précieuse dans la fabrication de ce documentaire. Archivina Delphine André, prise de son Anthony Thomasson et Nadège Antonini, réalisation Marie-Laure Ciboulet, mixage Nadège Antonini, coordination Christine Bernard, attachée de production Sylvia Favre, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch. Let's decide, always say no to genocide. No more genocide in Rwanda. No more genocide in the world. No more, no more. No more.